À 12h30, c'est le journal Ilan Malka.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Le chômage en France est en baisse au deuxième trimestre. Il a diminué de 0,7 points. Pourtant, selon l'INSEE, la crise de l'emploi est bien là. Comment s'expliquer un tel paradoxe? Qu'est-ce qui nous attend à la rentrée? Nous ferons le point sur ces sujets avec l'invité de cette édition, Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Dans l'épidémie actuelle de Covid-19, 50% des clusters, des sites de contamination, se trouvent dans les entreprises. C'est ce qu'affirme Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Quelles conclusions faut-il en tirer? Faut-il par exemple rendre le masque obligatoire dans les entreprises? Élément de réponse dans ce journal avec Maxime Fayolle. Au Liban, première session parlementaire. Après l'explosion du 4 août dernier, les députés doivent notamment entériner l'état d'urgence à Beyrouth. Alors que les recherches se poursuivent pour identifier les victimes ou déterminer les causes de la catastrophe, la police scientifique française est sur place pour aider, c'est ce que nous dira Nathanaël Charbonnier. C'est donc pour l'INSEE une baisse en trompe-l'œil. Selon les chiffres, le taux de chômage en France a diminué de 0,7 points au deuxième trimestre. Il est donc à 7,1%. Mais cette baisse ne signifie pas que le chômage recule véritablement en France. Elle est plutôt à mettre en rapport avec la définition que donne le Bureau international du travail d'une personne au chômage. Il s'agit en effet d'une personne qui est dans une démarche active de recherche d'emploi, ce qui n'était pas possible, bien sûr, au deuxième trimestre pendant le confinement. Alors, quelles prévisions peut-on faire pour les prochains mois à propos de l'emploi en France? Notre invité pour en parler est Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, après cette baisse en trompe-l'œil donc du deuxième trimestre, est-ce qu'il faut s'attendre à une vraie hausse du chômage pour la rentrée? Quelles sont les projections?
Oui, alors malheureusement, il va falloir s'attendre à une hausse du chômage pour dans les prochains trimestres. Alors pourquoi? D'abord parce que on n'est pas au vrai niveau du taux de chômage avec 7,1. Aujourd'hui, si on devait calculer un peu plus correctement, même si c'est très difficile, et l'INSEE fait un très bon travail parce qu'il nous permet tout de même de connaître un chiffre qui serait un peu plus proche de la réalité et qui devrait situer aux alentours aujourd'hui de 8,5-9% de chômage. Quand on regarde les dernières semaines, on est plutôt sur ce niveau-là. Donc il va falloir au prochain trimestre que l'on revienne déjà sur ce niveau-là, ce qui va être fait. Et ensuite, on va rajouter le chômage propre au troisième trimestre. Et malheureusement, on devrait encore avoir des destructions d'emplois au troisième trimestre, parce que l'ajustement de l'emploi n'est absolument pas terminé, et vous allez avoir une arrivée massive de nouveaux jeunes sur le marché du travail. Donc moins d'emplois, plus de personnes qui recherchent un emploi, le chômage ne peut qu'augmenter, et malheureusement on devrait se situer aux alentours de 10-11%. Il va falloir affiner nos prévisions, mais dans ces eaux-là, au troisième trimestre.
Alors pourtant, il y a quelques signaux qui apparaissent peut-être moins négatifs que prévu. Je pense par exemple au léger rebond de l'intérim entre avril et juin, plus 23%. Selon la Banque de France, la croissance pourrait rebondir au troisième trimestre. Tous ces signaux-là, selon vous, ce ne sont pas des éléments rassurants?
Alors, si, il y a bien entendu une reprise qui est là, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, vous voyez, depuis le début de l'année, le PIB a baissé d'à peu près 20%, un peu moins, 19%, alors que l'emploi n'a baissé que quasiment très très peu, puisqu'il y a une baisse de quasiment 2%. Donc ça veut dire que normalement, quand vous baissez de 20% votre activité, l'emploi doit baisser aussi d'à peu près du même montant. Or, on n'est qu'à 2%. Donc, c'est-à-dire que l'ajustement n'est pas commencé, n'est pas fait au niveau de l'emploi. Et donc, il y a cet élément qu'il faut prendre en compte. Et puis, la reprise indiquée par la Banque de France est uniquement pour potentiellement revenir à un niveau d'avant-crise. Et encore, on n'y sera que dans un an et demi. Donc, c'est revenir progressivement au niveau d'avant-crise. Or, vous voyez, même si on devait revenir à la même production qu'avant la crise, puisque le progrès technique continue à alimenter la productivité, et qu'on est plus productif aujourd'hui que l'on était avant la crise, et qu'on est plus nombreux aujourd'hui qu'avant la crise, forcément, le chômage ne peut qu'augmenter. Et donc, on va être sur cette tendance de hausse du chômage encore pendant, en tout cas, une grosse année.
Très très rapidement, est-ce que les mesures que met en place le gouvernement, les 3 milliards d'euros sur le soutien au financement des entreprises dans le cadre du plan de relance, cette prime pour l'embauche des moins de 26 ans, est-ce que tout ça peut être efficace?
Alors oui, c'est bien, c'est des bonnes mesures. Est-ce qu'elles seront suffisantes? Malheureusement pas, parce que globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, avec les périodes de confinement et déconfinement, il y a eu un coût d'à peu près 180 milliards pour l'économie française et les entreprises ont un coût de cette crise d'environ 55 milliards. Donc vous voyez, 3-4 milliards, c'est bien, mais malheureusement, c'est pas à la hauteur du coût, et donc pas complètement. Et donc malheureusement, il faut s'attendre à quelques faillites à la rentrée.
Merci à vous Eric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. L'aéronautique et les vins français vont rester soumis à des tarifs douaniers américains supplémentaires, ceci dans le cadre du litige sur les subventions à Airbus et Boeing, c'est ce que confirme ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Alors il a salué l'absence d'escalade des tensions dans ce dossier, il a cependant souhaité qu'un règlement définitif soit trouvé le plus rapidement possible dans ce contentieux qui dure maintenant depuis plus de 15 ans. S'il n'y a pas de solution, l'Union européenne devra, dit-il, se préparer elle aussi à riposter par des sanctions. En France toujours, les chiffres de contamination à la Covid-19 sont en hausse. Ils traduisent une nette dégradation. C'est ce qu'affirme dans son bilan d'hier la Direction générale de la Santé qui dénombre plus de 2500 cas confirmés en 24 heures. Une progression qui est inédite depuis le mois de mai. Alors, quels sont les endroits à risque? Eh bien, 50% des sites de contamination se trouveraient dans les entreprises. Bonjour Maxime Fayol.
Bonjour.
La question est donc désormais celle-ci, est-ce qu'il faut rendre le masque obligatoire dans les entreprises?
Alors actuellement, la règle est assez simple. S'il n'est pas possible de respecter la distanciation physique de 1 mètre, il faut porter son masque en entreprise. Il n'est pas question de revenir là-dessus dès aujourd'hui. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, vient encore de le confirmer ce matin. Pourtant, le chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, Éric Combe, estime, lui, qu'il faut durcir le protocole.
Je pense qu'il n'est pas appliqué correctement, mais s'il était appliqué correctement, il n'y aurait pas de souci à se faire. Je pense que c'est un problème d'autodiscipline et de la nécessité de ne pas se contaminer entre collègues. On comprend très bien que dans les entreprises, il y a un certain relâchement. Mais on ne peut pas se le permettre.
Éric Combe ce matin sur France Info qui rappelle que les entreprises privées représentent 22% des foyers de contamination aujourd'hui. Un problème qui est pris très au sérieux par la Confédération des petites et moyennes entreprises. Mais l'équation est assez compliquée. À vous Stéphanie Poza, la vice-présidente déléguée de la CPME.
Ce que l'on souhaite, c'est de trouver un juste équilibre entre des obligations et des mesures coercitives et la reprise d'activité dans les entreprises. Ça devrait être assez facile de faire respecter les choses et notamment le port du masque dans les lieux clos et dans les lieux où la distanciation sociale ne sera pas respectée. En revanche, là où ça risque d'être plus compliqué, c'est quand vous travaillez dans un bureau seul, si on vous impose le port du masque, quelle est l'utilité? On ne peut pas mettre quelqu'un derrière chaque collaborateur pour vérifier que le masque est bien porté.
Et une nouvelle réunion est prévue la semaine prochaine au ministère du Travail pour décider si oui ou non il faut généraliser ce port du masque en entreprise.
Merci à vous Maxime Fayol. En Méditerranée orientale, la France participe à un exercice naval avec la Grèce. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministère des Armées. Cela intervient dans un contexte de tension entre la Grèce et la Turquie. Athènes reproche à Ankara de violer sa souveraineté concernant l'exploration des ressources gazières en mer. Lundi, la Turquie a déployé un navire de recherche sismique dans une zone maritime disputée. Emmanuel Macron a annoncé hier soir un renforcement temporaire de la présence militaire française sur zone et a appelé les deux pays, donc Grèce et Turquie, à se concerter davantage. Deux chasseurs Rafale et deux bâtiments de la marine nationale française ont été déployés sur place en Méditerranée. En Biélorussie, des milliers de personnes ont formé hier encore des chaînes humaines et ont défilé dans les rues pour protester contre la réélection du président Alexandre Loukachenko. On rappelle que les accusations de fraude à propos de ce scrutin qui s'est déroulé dimanche dernier sont très nombreuses. Le ministère biélorusse de l'Intérieur a annoncé aujourd'hui avoir arrêté encore 700 personnes hier. Une contestation post-électorale violemment réprimée que nous raconte Valentin Tiplinski.
Après trois nuits de tension, le bilan provisoire est de deux morts. Plusieurs centaines de femmes ont formé une chaîne humaine devant un marché central à Minsk. T-shirt blanc, des fleurs dans les mains qui symbolisent la paix et l'espoir, avec un message aux forces de l'ordre d'arrêter la répression. La contestation face à la réélection du président Loukachenko dimanche dernier ne semble pas s'arrêter. À Minsk, mais aussi dans d'autres villes du pays, les manifestations se poursuivent. En 62 heures, plus de 7000 personnes ont été arrêtées pour avoir participé à des rassemblements non autorisés. Parmi eux, quelques dizaines de journalistes. Dans l'après-midi, près d'un centre de détention, les familles sont nombreuses. Les bénévoles sont là. Ils tentent d'établir la liste des détenus de ces dernières nuits des manifestations. La peur a disparu pour une grande partie des Biélorusses. Après le départ de la candidate Svetlana Tikhanovskaya, ils ont maintenant leur futur entre leurs mains.
Valentin Tiplinski, et à ce sujet toujours, les ministres européens des Affaires étrangères doivent se réunir demain pour débattre d'éventuelles sanctions contre l'ancienne République soviétique. Au Proche-Orient, Israël interrompt l'approvisionnement de Gaza en carburant. L'annonce a été faite aujourd'hui. Il s'agit de représailles à des dizaines de lancers de ballons incendiaires depuis le territoire palestinien vers l'État hébreu ces derniers jours. L'enclave palestinienne dépend d'Israël pour la majeure partie de ses approvisionnements en carburant et en gaz. Au Liban, réunion aujourd'hui du Parlement pour entériner l'état d'urgence décrété à Beyrouth après l'explosion meurtrière et dévastatrice qui s'est déroulée le 4 août dernier au port. Les forces de sécurité libanaises sont déployées dans les rues de la capitale pour tenter d'empêcher des manifestants d'atteindre le bâtiment. Aujourd'hui, la capitale libanaise attend également la visite notamment de la ministre française des Armées, Florence Parly. Des recherches sont toujours en cours pour identifier les victimes et comprendre les causes de cette tragédie. Et pour toutes ces missions, le savoir-faire de la police scientifique française est en appui actuellement des enquêteurs libanais. Depuis jeudi dernier, ce sont plus de 15 spécialistes tricolores qui aident les autorités. Il faut dire à Nathanaël Charbonnier que dans ce domaine, la France possède des compétences reconnues.
Le savoir-faire français n'est plus à prouver dans deux domaines. Le premier concerne la recherche des corps et le second l'enquête judiciaire pour connaître les raisons de l'explosion, comme l'explique Christophe Abraham, technicien en chef de la police technique et scientifique.
Tout notre travail, c'est d'assister donc les forces libanaises pour essayer de trouver des indices, de pouvoir éventuellement caractériser des substances, tout ce qui a pu être impliqué dans l'explosion qui a eu lieu. Vu l'ampleur de l'explosion, on ne retrouvera rien d'entier, mais effectivement des fragments, des conditionnements qu'on va pouvoir prélever et caractériser après analyse dans des laboratoires.
Un travail capital car l'enjeu est autant judiciaire que politique. Mais il ne faut pas oublier l'autre mission tout aussi importante, celle de l'identification des victimes. Travail éprouvant et technique. Christophe Abraham.
On a ce qu'on appelle les identifiants primaires qui vont concerner donc l'ADN, les empreintes digitales et l'odontologie. Donc c'est tout ce qui est dentaire. Les secondaires sont plus sur le vestimentaire, les tatouages, les cicatrices, ce genre de choses-là. Donc on fera un examen minutieux des corps ou malheureusement des parties de corps en fonction de l'état de conservation et on n'aura pas forcément tous les primaires. Il faut absolument un primaire pour identifier formellement une victime.
Et l'expertise de la police française a déjà fait ses preuves dans les attentats bien sûr, mais aussi lors du tsunami ou encore lors du tremblement de terre d'Haïti.
Nathanaël Charbonnier à Beyrouth. Le Japon s'apprête à commémorer ce samedi 15 août la capitulation du pays il y a 75 ans, quelques jours après les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Mais le pays n'en a pas tout à fait fini avec son passé. Des victimes de la pluie radioactive, appelée pluie noire, tombée à Hiroshima après la bombe, tentent toujours aujourd'hui d'obtenir une reconnaissance de l'État. 84 plaignants avaient remporté une victoire fin juillet au tribunal, mais mercredi, hier donc, le gouvernement a décidé de faire appel, leur refusant le statut sanitaire d'irradié qui leur permettrait notamment d'être soignés gratuitement. Reportage de Karine Nishimura à Hiroshima.
Le Premier ministre Shinzo Abe justifie le refus de reconnaître ces personnes comme Hibakusha, ce qui veut dire irradiés, au prétexte qu'il n'y a pas de preuves scientifiques que la pluie radioactive tombée il y a 75 ans soit à l'origine de leur maladie. Le tribunal avait pourtant conclu l'inverse. La ville et la préfecture de Hiroshima ne voulaient pas faire appel, mais le gouvernement les y a obligés. Maître Sasae est un des avocats des 84 plaignants.
Pendant 75 ans, ces personnes ont souffert sans être aidées par l'État. Ces victimes ont été totalement délaissées. Enfin, on se réjouissait qu'un tribunal vienne à leur secours. Et voilà, le gouvernement fait appel. C'est vraiment déplorable.
Un représentant des victimes exprime aussi leur désarroi, même si le gouvernement promet des examens scientifiques pour une éventuelle future reconnaissance.
Avant d'en appeler à la justice, nous avions demandé si de nouvelles études n'étaient pas possibles. C'est parce qu'on nous a dit non que nous avons porté plainte. Alors, quand le gouvernement dit qu'il va lancer de nouvelles études, ce n'est pas crédible. S'il voulait vraiment trouver une solution, il accepterait le verdict tel qu'il est.
Comme les autres victimes, Masaaki Takano a plus de 80 ans et craint de ne pas voir la fin de la procédure.
Il y aura encore des morts. C'est même sans doute ce qu'espère le gouvernement. En attendant, il trompe le monde.
À Hiroshima, l'opinion publique a bien du mal à comprendre l'entêtement des autorités.
Karine Nishimura. Cet après-midi, il y a des orages sur les régions Île-de-France, Centre, Val-de-Loire, Bourgogne, Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes notamment. Ça alternera avec des moments plus ensoleillés. Les températures sont en baisse par rapport à hier. Cet après-midi, elles partent de 22 à Bordeaux et elles montent jusqu'à 31 à Metz. Cette édition a été préparée avec Brice Garcia. Elle a été réalisée à la technique par Ludovic Auger.